Sono le 22:30.
La première obtention de fréquence, c'était en 92. Moi, je suis arrivé en 95. En avril 95, en tant que bénévole, j'ai fait un stage avec une personne qui animait des stages, qui était formateur à l'INA, en fait, Institut National de Visuel, et qui nous dispensait des formations sur une semaine en son, enfin en technique, et puis animation, comment faire un conducteur d'émission, tout ça. Et à partir de cette formation, en fait, j'ai intégré une émission pour les jeunes, pour faire la technique purement. Parce que moi, au début, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté technique. Et puis après, j'ai branché des amis en fait pour faire des émissions. Donc, on a fait la première émission après en septembre 95, qui s'appelait L'œil aux aguets, qui était une sorte de, qui était une bi-hebdo, et on faisait une sorte de reportage, des interviews, on traitait de problématiques, voilà, sous un angle assez marrant.
C'était quoi comme sujet hein?
On parlait des cafés, parce qu'on avait bien fait prendre des sons dans les cafés, des choses comme ça. On allait sur des festivals aussi, prendre des sons à droite à gauche, il y avait des petites chroniques aussi, c'est assez décalé. Et puis voilà, donc on a fait une année comme ça, et puis après chacun a un petit peu trouvé sa voie avec des émissions musicales. Moi, ouais, c'était le début du post-rock, tout ça, donc voilà, des choses un peu comme ça, trip-hop aussi. Donc en fait, tous ces gens que j'ai ramenés un peu ont ramené un peu aussi une identité, enfin commencé à ramener une identité nouvelle un peu musicale à la radio, qu'il n'y avait pas forcément avant, qui commençait à être amené par Fabrice, qui était objecteur de conscience, il me semble. Et puis il y avait aussi Henri qui arrivait en objection, je crois, en 96, un truc comme ça, début, fin 96. Donc moi, j'ai continué comme ça en tant que bénévole. Et puis en juillet 97, il y avait un poste d'objecteur qui se libérait. Et donc moi, j'étais pris sur ce poste, là, en fait, plutôt technique, régie matériel, tout ça. Et puis voilà, donc c'était parti pour 17 mois, voilà, jusqu'en janvier 99. Et puis après, bah, on attendait les emplois jeunes, donc j'ai attendu jusqu'en novembre 99. En fait, j'étais pris après pour en tant qu'emploi jeune en CDI, voilà. Tout au cours en fait de ce que j'ai pu faire en tant qu'objecteur, enfin cette période en fait, ça a pas mal changé. C'est-à-dire que j'ai développé pas mal le côté journalistique aussi. Notamment travail avec l'EPRA, échange de production radiophonique, où je commençais à m'intéresser à des sujets de société, des choses comme ça. Donc voilà, tout en gardant le côté technique que j'aime toujours d'ailleurs. Et puis voilà, puis après mes missions sont un petit peu aussi diversifiées dans la mesure où il fallait monter aussi des projets pour avoir de l'argent, des subventions, tout ça. Donc au fur et à mesure en fait on s'est retrouvé avec des choses à faire supplémentaires et voilà. En fait, à gérer tant le côté technique que journalistique, voilà, le rédactionnel, des choses comme ça. Comme toute radio associative, il y a des bénévoles, on a à peu près 40-50, avec une dizaine d'associations de l'agglomération nantaise. Après, il y a beaucoup de gens qui sont plus uniquement là pour faire que des émissions, mais qui viennent aussi, ou qui viennent même que pour faire des chroniques ou aller prendre du son, voilà. Plutôt des reporters, sorte de pigistes, voilà, qui sont soit dans le cadre d'études ou pas. Enfin, ils viennent comme ça parce qu'ils ont ils ont envie de découvrir un petit peu ce qu'est le métier de la radio, et puis de se frotter un petit peu, voilà, l'environnement culturel, associatif et social de l'agglo. Et puis, autrement, bah, on est 4 salariés. Donc il y a Henri programmateur, Pascal le rédacteur en chef. De toute façon il peut être que en chef parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, donc il est pas son propre chef. Et puis donc moi qui m'occupe tout ce qui est chargé de production. Donc je développe à la fois des projets. Et puis je m'occupe de tout ce qui est aussi matériel, bien sûr, toujours. Exclusivement avec des structures associatives, donc des structures culturelles comme l'Olympique, l'Unique, le Panonica, mais aussi des structures, enfin l'agence culturelle, et puis des structures un peu plus petites, enfin des petites assos qui ont besoin d'un coup de main pour monter des concerts, des trucs comme ça. Social, bah, c'est tout ce qui est économie sociale et solidaire, donc ce qui rejoint le champ citoyen un petit peu. Mais on n'est pas exclusivement sur le plan économie sociale et solidaire, on essaie aussi de voir un petit peu sur d'autres choses. Puis souvent, le culturel, ça mêle le social aussi, les citoyennetés. Enfin, voilà, depuis les élections en 2002, il y a beaucoup de mouvements qui sont créés autour de la culture et qui ont prôné un discours citoyen. Enfin, voilà, un retour peut-être de la politique, mais avec un grand P, dans le discours culturel peut-être. Voilà. Donc on parle de tout ça, on invite des gens qui font du théâtre, de la danse, de la musique. Enfin, voilà. Les champs culturels sont assez larges et on essaie toujours, on parle pas uniquement de l'événementiel, mais on essaie aussi à chaque fois d'extraire une problématique. Donc ça peut être sur les intermittents, sur le financement des salles de spectacle, voilà, toujours amené à une problématique pour essayer de construire quelque chose autour d'un événement qui va se produire avec une troupe de théâtre. Voilà. Enfin, les radios associatives ne sont pas uniquement des médias. Elles ont à la base, c'est un média. Enfin, une radio, c'est un média, mais aujourd'hui, une radio associative est un acteur en fait de la ville, enfin d'un département même, tant sur le plan culturel que social, puisqu'elle est aussi, elle n'est pas uniquement un relais en fait de l'information. Elle est là aussi pour proposer autre chose. Et essayer de mettre en chose des perspectives tant sur le plan local que sur le plan national voire international, voilà. Donc du coup la radio est plus actrice, enfin les radios associatives sont actrices en fait, elles participent au développement de projets, parce que en fait quand quelqu'un met en place un projet, les porteurs de projets, quand ils viennent parler de leurs événements, enfin de la création de telle ou telle chose, les radios sont là pour porter ces projets aussi à travers leurs ondes, quoi. De mettre en avant les choses intéressantes qui peuvent être faites sur Nantes et l'agglo, quoi. En fait, nous on n'a pas les audiences en fait, parce que ça se paye, voilà, ça se paye même très cher. Et puis en fait, dans la mesure où, enfin moi c'est mon point de vue, après d'autres radios associatives, elles sont peut-être plus intéressées par ces chiffres. C'est toujours, je vais pas dire bien de les avoir, mais ça peut être intéressant, quoi. Mais disons qu'on est plus là, ça va être une manière égoïste de dire ça, mais disons que nous on fait de la radio, c'est pas qu'on se fout de l'auditeur, mais on essaie de proposer une autre forme de radio, quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose de sincère et naturel pour nous, quoi. On n'essaie pas de trafiquer des choses pour les rendre plus attrayantes à l'oreille, comme le peuvent les faire les grosses radios, voilà, avec un son plus qui pète plus, enfin, des choses comme ça, quoi. On fait les choses naturellement, voilà, et voilà, on essaie d'intéresser les gens. Après, on les surprend forcément, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Dans l'univers médiatique, les gros médias proposent toujours la même chose, toujours même angle, même formatage. Mais du coup, nous, on déformate les choses. C'est-à-dire, on propose pas de format. On dit, voilà, si on traite un sujet, si on a besoin de 1h35, on le fait en 1h35. Si on a besoin que de 5 minutes, on le fait en 5 minutes. Voilà. Donc, on essaie de déstructurer ça. Du coup, ça peut surprendre l'auditeur. C'est vrai que 2 heures de parler sur un tel, ça peut être chiant, mais moi je trouve que j'estime, voilà, s'il y a besoin d'en parler et que les gens ont des choses à dire devant le micro, voilà, les micros sont ouverts. Donc on essaie de surprendre l'auditeur, mais aussi d'être pédagogique dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer pourquoi on le fait, comment on le fait, voilà, on essaie d'être ouvert tant au niveau scolaire, mais aussi vis-à-vis des auditeurs, quoi, voilà. Les studios sont ouverts, on essaie de démystifier la radio, enfin la radio c'est n'importe qui peut en faire en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas réservé à des gens qui ont une connaissance. Voilà. En fait, le rythme de Jet, c'est qu'il n'y a pas de rythme en fait. C'est ça, c'est que. Enfin, il y a toujours un rythme. Je veux dire, t'as une régularité, t'as des émissions quotidiennes, des hebdos, tout ça. Mais dans le rythme de la journée, disons qu'on ne se dit pas, tiens, à telle heure, il faut tel type de musique, il faut tel reportage. On diffuse ça, si les gens, c'est vrai qu'à 8h du mat, ils ont envie d'avoir une musique péchue, en fait, c'est un gros truc, une note de guitare qui dure pendant 10 minutes, et bah oui, bah c'est ça, et tant pis, voilà, ils changent. Enfin, on n'est pas là pour addicter les gens à la jet, on est là pour leur faire découvrir des choses, si ça leur plaît pas, ils écoutent autre chose. Je veux dire, sur Nantes, on a quand même la chance d'avoir un paysage radiophonique qui est assez vaste, avec pas mal de radios nationales, beaucoup de radios locales aussi. Donc il faut garder, il faut préserver cette diversité pour que les gens aient le choix, quoi. C'est la liberté de choisir ce qu'on veut écouter, voilà. Et donc du coup, en fait, ouais, nous on n'a pas de rythme dans la journée, à part la quotidienne, mais voilà, on ne se dit pas, tiens, on va faire ça à telle heure parce que c'est ce qui doit plaire à tel truc, voilà. C'est pour ça que nous on s'intéresse pas aux audiences, en fait, c'est que on s'en fout qu'il y ait tant de personnes qui écoutent sur tel quart d'heure à telle heure. ce qui peut être malsain en plus, c'est que comme il y a beaucoup, enfin le soir c'est des émissions qui sont réalisées par des bénévoles qui sont donc adhérents à la radio. Et si on commence à rentrer dans ce jeu-là, dire voilà les audiences par émission, tout, des trucs comme ça, ça va se tirer dans les pattes. Et puis voilà, on n'est pas là. En fait, le principe d'une radio associative pour moi, c'est d'être enfin, avec les autres radios associatives, c'est d'être solidaire, de pas être dans le jeu de la concurrence. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on combat, la concurrence. Voilà, donc c'est pour ça que l'audimat peut être intéressant, parce que t'es toujours content quand t'as plein de personnes qui t'écoutent. Mais les chiffres, de toute façon, on les a par d'autres radios, pas détaillés, mais disons qu'on a l'audience globale. Une radio associative, c'est le même modèle que toute association, c'est des subventions. Sauf que les radios, elles ont la chance d'avoir c'est une chance parce que c'est un fonds de soutien aux radios FSR, fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc qui permet à toutes les radios associatives de financer en moyenne un poste. Après, il y a des maxima, tout ça, donc c'est un peu. Après, il y a des critères, donc, mais bon, voilà. C'est la principale subvention de toutes les radios. Après, elle complète avec des subventions municipales, des subventions conseil général, conseil régional. Voilà. Après ce fonds de soutien, il tient compte, disons, d'un projet. Et après, sur le terrain, c'est plus aux collectivités locales de prendre leur relais, de voir ce qui se fait vraiment, effectivement, de savoir si tel ou tel projet tient la route et comment on peut l'accompagner financièrement. Donc, voilà. Nous, sur Nantes et plus généralement sur le département, on a de la chance d'avoir le conseil général qui soutient les radios, la ville de Nantes qui soutient les radios associatives. Donc c'est plutôt positif là-dessus. On est assez suivi. C'est pas le cas dans toutes les villes. Après, il y a des conflits aussi politiques qui font que si tu es soutenu par une telle majorité, tu ne seras pas par l'autre parce qu'elle estime que voilà, c'est. Donc voilà, puis il y a aussi l'EPRA, l'échange de production radiophonique, qui permet à quelques radios d'avoir pas mal d'argent, parce qu'avant des reportages sur le thème de l'immigration, de l'insertion sociale, tout ça. L'EPRA, en fait, c'est un GIE, un groupement d'intérêt public, qui regroupe une centaine de radios associatives sur adhérentes en France. Et en fait, ces radios peuvent vendre en fait des reportages de maximum 20 minutes, ou ça peut être des chroniques, des choses comme ça, sur le thème de l'intégration, donc choses sociales, voilà, tout ce qui est en rapport à ça. Et ensuite, ces émissions sont diffusées sur le canal de RFI, Radio France Internationale. Je crois que il y a trois créneaux d'une heure par jour. Et donc voilà, donc ça permet à la fois de faire connaître le travail des radios associatives en France sur le canal de RFI, donc partout où voilà, il y a des communautés francophones. Et puis ça permet aussi d'avoir un financement de ces trucs. Donc c'est surtout aidé, c'est sous tutelle du ministère de l'insertion, des minorités, tout ça, enfin voilà. Et donc ça permet à des radios de financer pratiquement un poste, voilà. Et à la fois d'alimenter l'antenne intelligemment et à la fois de ramener des subventions aussi. Et nous, on va repostuler sur la même fréquence, de toute façon. Dans la mesure où le travail qu'on fait est quand même assez reconnu, comme la plupart des radios associatives sur Nantes, je pense pas qu'il y ait de problème à ce qu'elle soit reconduite de manière permanente. En fait, le...
15 ans, là,
ouais, c'est 15 ans, mais c'est 3 fois 5 ans, en fait. C'est comme ça que ça a fonctionné quand le plan a été mis en place en... 92, on fait 5 fois 3 ans en fait. Sachant que bon, généralement, t'as pas de problème pour reconduire, sauf si vraiment t'as déjà eu pas mal de mises en garde du CSA, ou voilà, qu'il y a des propos racistes qui sont tenus sur l'antenne, diffamatoires, des choses comme ça, quoi. Qu'il y a une mauvaise gestion surtout. Moi, je pense pas qu'on ait de problème, surtout que le grand chamboulement qui était prévu à la base aura pas forcément lieu. Parce qu'en fait, il y avait un député UMP qui avait lancé l'idée des fréquences uniques pour les radios nationales. C'est tombé à l'eau quand il s'est rendu compte que ouais, ça allait foutre la merde et qu'il y allait plein de fréquences pour les radios associatives qui allaient passer à la trappe, et même pour les radios locales privées aussi sous forme commerciale. Donc du coup, en fait, tout ce grand sorte de nuit bleue, en fait, on parle dans le milieu, parce que les nuits bleues, en fait, c'est quand il y a une nuit où ils changent toutes les fréquences, et voilà. Et on n'aura pas forcément lieu, quoi. Du coup, ça sera assez... assez mineur comme changement, même s'il y a toujours ce doute sur l'attribution de fréquences, mais a priori CTR, enfin les conseillers techniques régionaux qui donc là pour Nantes et à Rennes connaissent bien quand même les radios et le travail des radios associatives, et après eux font quand même leur rapport et au CSA qui prend quand même en compte leur avis, quoi. Donc, je pense que surtout ce qu'ils vont regarder c'est savoir si le projet tient toujours la route. Ils vont être à mon avis très vigilant aussi au site technique, site d'émission, voilà, parce que c'est vrai qu'avec tous les téléphones portables, enfin voilà, c'est un peu la guerre des ondes, donc, et du coup je sais que par exemple pour Queen ils vont faire ils ont intérêt à avoir un bon dossier technique là-dessus pour un bon site d'émission. Donc c'est un peu difficile parce que les sites techniques, si on n'a pas la chance d'avoir déjà des conventions avec, sur une tour à 50 mètres de hauteur, voilà, c'est un peu difficile de trouver des sites, surtout qui sont le monopole est détenu par TDF, Télédiffusion de France, et puis par, je sais plus son nom, enfin bref, qui appartient à Énergie, Towercast, hein, qui appartient à Énergie, donc c'est un peu dur, souvent on se tourne vers eux, mais c'est facilement 15 000 euros l'année pour une diffusion. Rien que pour la diffusion aussi d'émissions, donc ce qui est assez cher, hein, surtout pour une radio associative. Donc soit on se démerde par nos propres moyens, mais il faut répondre à des problèmes, enfin tu vois, des questions de sécurité technique, tout ça, donc, qui sont assez importantes. Donc soit on a la chance d'avoir déjà un bon site, ou soit il va falloir en trouver un très bon pour la suite. Pour nous ça va, on est sur un immeuble, on n'a pas à se prendre. Je ne sais pas si les radios sont subventionnées parce que c'est un média ou si le projet est intéressant derrière. Si le travail de terrain qui est mené est reconnu quoi, en tant que tel. Moi, j'aimerais penser que voilà, si on est subventionné par une municipalité ou par une collectivité locale quelconque, ce ne soit pas uniquement pour se dire voilà, on subventionne telle structure et puis s'en glorifier. Je pense que c'est plutôt par le projet quoi, de dire voilà, il y a des choses qui sont défendues dans ces radios. Ce sont des acteurs culturels et sociaux importants dans un territoire donné, et que ces acteurs-là, elles ont besoin de moyens pour continuer à faire vivre leurs projets, qu'elles ont besoin de, non seulement de moyens financiers, mais moyens humains aussi pour les mettre en place, parce que même si les bénévoles sont là et donnent un gros coup de main aux salariés que nous on est dans des radios associatives, il y a un moment aussi où il y a un besoin de professionnalisme derrière qui peut faire défaut parfois chez des personnes qui sont bénévoles, parce que travaillent à côté, voilà, ils ne sont pas non plus à 100% dans 8 heures par jour à la radio, même plus, parce que voilà. Et du coup, sur certains sujets, sur des problématiques politiques ou des choses comme ça, il y a besoin aussi d'avoir des gens qui sont compétents, qui ont une connaissance du terrain et voilà, qui connaissent un petit peu aussi les problématiques récurrentes dans les radios associatives, tout ça. Moi, je pense que les radios associatives sont pas encore reconnus en tant qu'acteurs, justement, alors qu'elles le devraient, et que voilà, à chaque fois qu'on a de l'argent on est content, mais on aimerait, tu vois, qu'il y ait plus un dialogue aussi qui s'instaure sur la façon de pas de faire les choses, mais de dire voilà, que la collectivité locale qui subventionne dise nous on trouve ça vraiment intéressant, et ça on l'entend pas assez, ou tu vois, pas d'une manière franche, c'est d'ailleurs on donne l'argent et puis voilà, mais tu vois, il faudrait, je pense qu'il y a quelque chose de, tu vois, comme ce que peut faire Trampolino au sein, avec les musiques actuelles. Quoi. Là, c'est quelqu'un, enfin c'est une structure qui est médiatrice, qui est interpellée aussi sur des questions de politique culturelle. Et je pense que les radios associatives ont aussi leur mot à dire sur la mise en place de certaines politiques culturelles, et qu'elles devraient être interpellées aussi. Et donc c'est tant par le ministère de la Culture, mais aussi par les collectivités locales sur voilà, la mise en place de telle ou telle chose sur le territoire. Qu'est-ce que peuvent amener aussi les radios associatives, comment elles peuvent le défendre. Voilà. On est là aussi pour être sur le terrain et puis pour défendre. Mais c'est vrai que nous, on est la tête dans le guidon toute l'année parce qu'on est très peu de salariés. Et encore, nous, on a de la chance, mais entre guillemets, on est trois, on est quatre maintenant. Il y en a, ils tournent à une personne, à Graffiti, à La Roche, ils sont tous salariés, quoi. Après, il y en a qui ont de la chance d'avoir un bureau dynamique avec des gens dans le CA qui s'investissent, qui portent aussi le projet. C'est pas le cas dans toutes les radios associatives. Qu'il y ait des bénévoles qui passent toute la journée à la radio, qui sont pratiquement salariés, voilà. Il faut comment que les collectivités locales se rendent compte de ça, c'est qu'il y a aussi des moyens qui sont pas comptabilisés, tu vois, et toute une somme de moyens humains qui est pas comptabilisée en fait dans le budget d'une radio associative. Donc voilà. Donc en fait, on vient de se regrouper avec les 5 radios associatives. Donc Alternante, Prune, Jet, Sun FM et puis Radio Fidélité. Voilà. Donc c'est à la fois de se dire voilà, on peut travailler ensemble. Parce que ce qui peut être vu de l'extérieur, c'est qu'il y a des fois des petites guéguerres entre les radios. Alors que ça, c'est les gens qui imaginent ça. Il y a des personnes ici dans les collectivités locales qui imaginent ça, que c'est la guerre entre telle et telle radio, alors pas du tout. Et justement, on avait envie de mettre ça à plat, de dire à tout le monde que voilà comment on travaille, on n'est pas dans un esprit de concurrence, dire Jet ne fait pas de la concurrence à Alternante ou à Prune ou à Sun ou à Fidélité. On travaille vraiment dans un esprit de solidarité, de coopération aussi, et on essaie aussi de mutualiser des moyens. Alors pour l'instant, ça va être de travailler justement sur la diffusion numérique, parce que ça va arriver assez vite, le DAB, qui va être quelque chose qui va être difficilement portable pour une seule radio, parce que ça va coûter extrêmement cher. Donc ça va être de se mutualiser là-dessus, de savoir comment on peut trouver un site d'émission numérique, comment on peut le faire, quels moyens financiers on peut mettre en place. C'est aussi de se défendre, entre guillemets, entre les uns les autres, d'être solidaire quand il y en a un qui a un problème, l'ensemble des radios réagissent, parce que dans la vie d'une radio, chaque radio est confrontée à peu près toujours au même problème, le logement, manque de subventions, enfin voilà, des pertes d'emploi, voilà. Donc du coup c'est d'être solidaire là-dessus, et puis de se dire que sur des choses on peut ponctuellement travailler ensemble, voilà. Même si et d'affirmer surtout la diversité chacune. C'est-à-dire que Prune fait pas la même chose qu'Alternance, qui fait pas la même chose que Jet, que Fidélité, que Sun. On a une programmation musicale qui est différente, même si à des moments ça se rejoint sur des artistes, mais ce qui est normal, que sur du rédactionnel on peut se rejoindre, on peut couvrir des mêmes concerts, des choses comme ça, voilà. Mais on a une manière différente de faire de la radio, qui est notre façon de voir la radio, mais dire voilà que chaque radio est différente. Et que la disparition de l'une d'entre elles pourrait nuire en fait à la mise en place de, enfin toi, comment, la diversité en fait de ce qui peut être proposé sur Nantes et de l'agglomération. Et puis la dernière chose, c'était aussi de monter une fédération en fait de radio ligérienne, donc au Pays de la Loire. D'interpeller la région, le Pays de la Loire, pour essayer de mettre en place un fonds de soutien régional, comme un peu ce qui s'est fait en Languedoc-Roussillon et puis surtout en PACA, en région PACA, où en fait la région subventionne les radios qui touchent le fonds de soutien Expression Radiophonique et leur reverse 20% de ce fonds de soutien. Donc ce qui n'est pas négligeable pour une radio, parce que c'est pratiquement pour des radios qui touchent pratiquement le maximum en FSER, c'est-à-dire 60 000 euros, ça représente 12 000 euros, c'est la moitié d'un poste. Voilà. Et puisqu'on parle de poste et de reconnaissance, c'est qu'on reconnaisse aussi le travail qui est fait au sein des radios associatives, et que la culture soit plus le parent pauvre de financement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent derrière, qui sont ouais, il y a une économie, hein, et puis. Mais c'est tant valable pour les radios associatives que pour les associations culturelles ou sociales, où en fait il y a une baisse des crédits, il y a à chaque fois les dispositifs qui durent 2, 3 ans, 5 ans sur des emplois aidés. Et que voilà, d'une part, je trouve que par rapport à ça, il y a une perte d'énergie, une perte de temps, une lassitude aussi qui peut se créer dans une structure. Quand tu vois que bah, tes salariés, ils arrivent, ils vont être là pour 2 ans et pendant quelques mois, tu donnes tout pour les former et tout ça. Et puis au bout de 2 ans, ils sont obligés de partir, tu es obligé de recommencer. Donc c'est une perte de temps énorme. Et tout ça, ça pourrait être une économie énorme de financement, rien qu'en réfléchissant sur du long terme et non pas sur du court terme. Et puis il faut arrêter de payer les gens au SMIC, quoi. Enfin, dire les 35 heures, c'est bon dans, tu vois, je vais pas être péjoratif, mais chez les fonctionnaires, quoi. Voilà. Tu fais tes 35 heures, basta. Dans le milieu culturel, tu fais rarement tes 35 heures parce que t'as beaucoup d'obligations, parce que tu dois aller voir un tel spectacle pour faire un article le lendemain. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc, 35 heures, t'en fais pratiquement le double dans la semaine. Donc, on est vraiment hors cadre du code du travail, quoi. Et ça, pour moi, les élus devraient comprendre ça. Enfin, c'est eux qui sont aussi garants du respect de la loi. Et je pense qu'il y a un minimum aussi qui devrait être reconnu justement sur le code du travail, quoi. C'est-à-dire qu'on paye correctement les gens sans qu'on touche 2000 euros par mois, mais un peu plus que le SMIC, ça serait un minimum de reconnaissance. Et je pense que la reconnaissance du projet aussi porté par les radios associatives, chacun de leurs projets, c'est aussi par une reconnaissance des moyens mis pour financer des postes à hauteur correcte, quoi. Je veux dire, le meilleur système capitaliste, il est dans la culture, quoi. On compte pas nos heures et on est payé comme à coup de lance-pierre. Et de toute façon, en face, les gens qui attribuent les subventions le savent très bien que de toute façon, qu'on ait l'argent ou pas, on le fera quand même. Parce qu'on est passionné, voilà. Alors après, on essaie aussi de se dire, voilà, bah, il y a des choses qu'on peut plus faire parce qu'on n'a plus le temps, quoi. Et puis qu'à un moment, tu pètes un câble aussi, je veux dire. C'est psychologiquement, c'est difficile à porter d'être à fond dans le speed tout le temps, même si t'aimes ça. Au bout de 5-6 ans, tu t'en lasses, quoi. Surtout, tu vois que tu mets un tas d'efforts à faire des choses et puis que, bah, financièrement derrière, ça porte pas trop. Et puis, t'es toujours à te démerder avec 2-3 brindilles pour faire un feu, quoi.